Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal de midi, François-Xavier de Calonne. De nouvelles manifestations meurtrières au Soudan. 3 manifestants ont été tués hier lors de rassemblements contre le pouvoir militaire. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune est arrivé hier soir en Égypte, une visite de travail de 2 jours. La campagne présidentielle en France, le grand imam de Bordeaux, Tarek Oubrou, appelle les responsables politiques à ne pas cliver la société, à ne pas la crisper, nous l'écouterons. L'ex-premier ministre libanais Saad Hariri et le courant du futur ne participeront pas aux législatives du 15 mai prochain au Liban. Saad Hariri annonce la suspension de son travail politique et appelle le courant du futur à faire de même. La Coupe d'Afrique des Nations, les 8e de finale, face à face Maroc-Malawi ce mardi à 20h et Sénégal-Cap-Vert à 17h. La finale de la CAN aura lieu le 6 février prochain. Quelles ont été les surprises de la première phase? Notre invité sera Franck Orokoti, journaliste à Africa Top Sport au Togo. La répression des manifestations contre le pouvoir militaire se poursuit au Soudan. 3 manifestants ont été tués hier lors de nouveaux rassemblements dans la capitale, Khartoum. Une mobilisation populaire qui ne faiblit pas depuis le coup d'État du 25 octobre dernier. Depuis cette date, 75 manifestants ont été tués. Les personnes qui descendent dans la rue demandent un pouvoir civil dans un pays quasiment toujours sous la férule de l'armée depuis son indépendance il y a 66 ans. La campagne présidentielle en France, le grand imam de Bordeaux appelle les responsables politiques à ne pas crisper et à ne pas cliver la société. Entretien avec Tarek Oubrou.
Malheureusement, il y a toujours ce rituel électoraliste qui parfois se focalise sur des sujets qui sont des sujets, mais parfois on leur donne une importance démesurée par rapport à la problématique. Donc, effectivement, nous appelons en tout cas les politiques à avoir une parole responsable et de ne pas cliver la société qui est déjà crispée. Il faut proposer des solutions concrètes, parce que c'est bien de faire le diagnostic, encore faudrait-il proposer des solutions faisables. Et donc une parole qui apaise, mais une parole lucide, franche, et qui aborde les problèmes en proposant des solutions plausibles. Donc effectivement, le discours politique, parfois, au lieu de résoudre le problème, il peut l'aggraver par des approches un peu très 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 radicales. La modération, c'est une qualité. La modération, c'est pas le laxisme. La modération, c'est le fait d'avoir une vue juste sur la société et de traiter les problèmes de manière lucide.
La question de la structure du culte musulman, de sa représentation, doit-elle, selon vous, être présente au cours de cette campagne?
Il faut mettre les religions à l'abri de la politique et la politique à l'abri de la religion. Il faut séparer les ordres. Les croyants, quand ils parlent de la politique, ils parlent de la politique en tant que citoyen. Il n'y a pas un islam de droite, de gauche, un vote de droite, de gauche, etc. Non, il y a des valeurs communes qu'il faudrait défendre pour le bien de tout le monde. Donc, il ne faudrait pas embarquer les religions dans une logique politicienne. Ça nuirait à la politique et à la religion elle-même. Par contre, les religions, fidèles à leurs valeurs universelles, humanistes, doivent défendre ce qui est dans le sens de la paix, de la justice, de la fraternité, de la reconnaissance de l'autre. Ce sont des valeurs universelles. Les religions sont là pour rappeler ce que parfois les êtres humains oublient. Le bon sens, la justesse, la justice, le respect de la dignité de l'autre, l'altérité. Voilà, il faut que la religion reste dans son rôle.
Le grand imam de Bordeaux, Tarek Oubrou. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune est arrivé hier soir en Égypte. Une visite de travail de 2 jours. C'est la 2e visite du chef de l'État algérien à l'étranger depuis son arrivée au pouvoir en décembre 2019, après celle qu'il avait conduite en décembre dernier en Tunisie. Au menu des entretiens avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi, la préparation du prochain sommet de la Ligue des États arabes. Ce rendez-vous devait initialement se tenir en mars prochain à Alger, avant avant d'être reportée à cause de la pandémie de Covid-19. La démission de la directrice de cabinet du président tunisien, Kais Saied, Nadia Akacha, évoque des différences d'opinion fondamentales concernant les intérêts du pays. Elle était une proche conseillère du chef de l'État tunisien depuis son accession au pouvoir en 2019, une position renforcée en juillet dernier quand Kais Saied a suspendu les travaux du Parlement avant de s'arroger l'intégralité des pouvoirs exécutifs. Les Tunisiennes et Tunisiens qui résident en France peuvent participer à la consultation nationale électronique qui porte sur les réformes à adopter en Tunisie. Les participants ont jusqu'au 20 mars prochain pour répondre aux questions posées par la présidence. Elles portent sur la vie politique, sur l'économie, sur les questions sociales, les questions de santé ou encore d'environnement et de transition numérique. Pour participer à cette consultation, il faut se rendre sur la plateforme e-istishara.tn. Les élections législatives du 15 mai prochain au Liban et cette déclaration hier de l'ancien Premier ministre Saad Hariri. Je ne me présenterai pas et ne présenterai aucune candidature du courant du futur ou en mon nom. Des propos lors d'un discours prononcé hier après-midi devant les membres de sa formation. Saad Hariri annonce la suspension de son travail politique et appelle le courant du futur à faire de même. Une djihadiste allemande partie en Syrie à l'âge de 15 ans pour rejoindre l'organisation État islamique comparaît devant la justice de son pays. Elle a aujourd'hui 21 ans. Elle est accusée de complicité de crimes contre l'humanité. Elle est jugée pour appartenance à une organisation terroriste et pour avoir aidé en juin 2015 son époux djihadiste à acheter une femme yazidi, une minorité kurdophone d'Irak réduite à l'esclavage par Daesh. Les États-Unis réaffirment être prêts à des négociations directe avec l'Iran. Objectif, sauver l'accord sur le nucléaire iranien. Washington répond ainsi à Téhéran qui a évoqué pour la première fois cette hypothèse. Actuellement, l'Iran ne négocie pas directement avec les États-Unis, mais si durant les négociations nous arrivons à un point où la conclusion d'un bon accord avec de solides garanties nécessite un certain niveau de discussion avec les États-Unis, nous le prendrons en considération selon les mots du ministre iranien des Affaires étrangères. La Coupe d'Afrique des Nations, les huitièmes de finale face à face Maroc-Malawi ce mardi à 20h et Sénégal-Cap-Vert à 17h. La finale aura lieu le 6 février prochain. Quelles ont été les surprises de la première phase? Entretien avec Franck Orokoti, journaliste à Africa Top Sport au Togo. Il reviendra notamment sur la victoire dimanche dernier des Aigles de Carthage sur le Nigeria, 1-0. La Tunisie affrontera le Burkina Faso samedi prochain à 20h. Entretien avec Franck Orokoti.
La première surprise reste l'élimination de l'Algérie, qui est le tenant du titre. L'Algérie qui est partie donc à cette compétition comme la favorite justement de cette Coupe d'Afrique des Nations 2021. Mais la grande surprise, c'est son élimination malgré les joueurs qu'elle possède. L'Algérie donc est tombée devant la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire surtout qui l'a éliminée. Et lors d'un match fatidique, troisième journée de poule du groupe E, donc 3-1. Donc l'Algérie est la grosse surprise donc de cette CAN-là. En dehors de l'Algérie, on peut parler également du Ghana. Ghana qui est un habitué donc de la compétition, il est également éliminé. Vous savez donc après l'élimination, son coach a été renvoyé également. Je peux dire que les autres surprises, c'est la qualification, hein, sinon les qualifications du Malawi par exemple, de la Guinée équatoriale par exemple, de la Gambie qui fait sa première participation donc à une phase finale de la Coupe d'Afrique, sans parler également des Comores, les Comores également, les Comoriens également se sont qualifiés pour justement le deuxième tour. Il faut dire que ce sont les grandes surprises, mais il y a quand même certaines sélections qui ont tenu leur rang, à l'exemple du Cameroun, du Sénégal, le Maroc, la Tunisie et pourquoi pas également la Côte d'Ivoire qui est également une grande favorite de cette compétition.
Alors, nous reviendrons notamment sur la victoire de la Tunisie et sa qualification pour les quarts de finale, mais concernant l'élimination des tenants du titre, l'élimination de l'Algérie, comment l'expliquez-vous?
Au fait, on n'a pas compris justement la prestation ou bien les prestations des Algériens puisque déjà d'entrée, ça a été difficile pour eux contre d'abord les petites formations, disons, la Sierra Leone, la Guinée équatoriale. On se disait que l'Algérie allait marcher tout simplement sur ces deux formations, mais ça a été compliqué justement pour cette formation parce que elle n'a pas trouvé la faille hein, de marquer le moindre but contre les deux sélections. Ça a été très compliqué pour eux. Déjà contre la Sierra Leone, ça a été difficile. Contre la Guinée équatoriale, ça a été difficile. On n'a pas senti un impact physique de cette formation au niveau du milieu de terrain. Ça a manqué véritablement là, parce que déjà, la défense tient avec Aïssa Mandi. Il y a également les couloirs également qui tiennent très bien. Il y a également Mahrez qui a joué également son rôle. Seulement, au niveau des attaquants comme Slimani et puis Bounedjah, ça a été également compliqué de trouver justement le cadre, parce qu'ils ont fait plusieurs tirs, plus d'une trentaine de tirs vers le but, mais sans toutefois donc trouver la faille. Ça a été très compliqué justement pour cette formation. Et puis, pour la dernière journée, elle doit faire face à une Côte d'Ivoire également qui était avant le match dans une situation compliquée. Et maintenant également, les deux équipes ont eu également des passés et au niveau des confrontations. La Côte d'Ivoire également veut prendre sa revanche sûrement sur cette formation algérienne. Et ça a été compliqué pour les Fenech. Je crois que les dirigeants de cette formation algérienne ont appris la leçon. Ils doivent repartir en arrière pour se préparer pour justement les barrages de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.
Et vous évoquiez, Franck Rocotti, ce beau parcours de la Tunisie, ce parcours qui se poursuit bien entendu. Les Aigles de Carthage qui ont battu dimanche soir dernier le Nigeria. La Tunisie affrontera le Burkina Faso, ce sera samedi prochain à 20h. Quels sont les principaux atouts des Aigles de Carthage ?
Avant d'arriver sur les atouts, on va dire que c'est un exploit. Hein. La Tunisie a créé la sensation. D'abord en battant, sortant une équipe du Nigeria qui est également favorite puisque à l'issue de la phase de poule, c'est la seule équipe qui avait fait 3-3 avec justement des buts et puis des joueurs splendides dans cette compétition comme Moses. On se disait même avant justement cette rencontre des huitièmes de finale que le Nigeria va passer parce que au niveau des poules, la Tunisie n'a pas véritablement impressionné. Mais c'est la surprise, c'est la sensation que cette formation a créée. La Tunisie est arrivée donc à battre justement le Nigeria, surtout par ce joueur qui s'appelle Mesakni Youssef. Vous savez, il est déjà à sa 7e CAN. Je crois que ce sont des joueurs très importants, des joueurs expérimentés comme ça. Ils ont toujours quelque chose à démontrer, à faire une différence. Je crois que c'est ce qui est arrivé donc à cette formation tunisienne qui s'est appuyée justement sur cet atout pour justement marquer le seul et unique but de la rencontre. Je crois que c'est le seul véritable atout pour cette formation, même si au-delà, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui parler de cette 33e édition de la CAN sans parler également de Covid. Vous savez que cette formation des Aigles de Carthage a connu beaucoup de choses parce que les joueurs ont été Covidés, quels joueurs alignés et tout ça. Mais ils se sont appuyés sur un certain Youssef Mesakni pour justement faire tomber le grand Nigérian.
Et vous l'avez souligné, hein, cette Coupe d'Afrique des Nations qui est bien entendu marquée par la crise sanitaire internationale, cela a un effet sur les joueurs, un effet psychologique notamment.
Oui, un effet psychologique sur les joueurs, un effet psychologique surtout sur les entraîneurs parce que les entraîneurs ont compté sur certains joueurs qui n'ont pas finalement utilisé lors de cette édition parce que au-delà de la qualité technique et tactique du joueur, il faut également compter avec cette crise sanitaire. On a vu avec le Gabon, par exemple, au départ, on a parlé de Aubameyang et puis de son coéquipier qui ont été atteints justement de cette maladie. Je crois que ça a été véritablement quelque chose qui embêtait les entraîneurs, le staff technique et toutes les délégations qui se sont rendues donc au Cameroun. Au départ, on avait demandé à ce que les stades ne soient pas pleins, mais finalement, lorsque vous présentez déjà votre passe sanitaire de vaccination, vous pouvez rentrer donc sur le terrain sans avoir fait la vaccination. Je crois que c'est quand même une bonne solution qu'a prise le Cameroun. Je crois que c'est très important. Ça a permis finalement que les stades soient remplis parce que on ne peut pas organiser cette fête, cette messe continentale sans que le spectateur ou bien le public soit absent. Je crois que c'est très important. Ça a véritablement embêté les équipes. Donc c'est très important de le savoir, c'est très important de le souligner, mais ça a embêté justement les différentes délégations qui se sont rendues au Cameroun.
Franck Orokoti, journaliste à Africa Top Sport au Togo. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient. À 12h30, votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour votre flash en langue française. 17h30 pour le journal. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera le sénateur socialiste Rachid Temal, membre de l'équipe de campagne d'Anne Hidalgo, candidate PS à l'élection présidentielle. Une émission préparée et présentée par Loïc Barrière. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient. Très bon début d'après-midi.